suite à cette question pour découvrir ce qu'est l'être. Nous avons constaté une diversité de détermination dans un individu et découvert parallèlement une unité. C'est cette unité qui nous a permis de découvrir la substance, principe et cause selon la forme au niveau de l'être. S'il en est ainsi, l'un ajoute quelque chose que nous avons de l'être lorsque nous disons que l'un est propriété, étant donné que nous l'avons utilisé au point de départ. Oui, précisément. On a deux connaissances de l'un. C'est intéressant à poser comme question, parce que ça fait titre, vous voyez, de ce qu'Aristote ne cesse de dire, qu'il faut regarder le premier dans l'ordre génétique et le premier dans l'ordre de nature. Vous savez que cette distinction qu'Aristote fait au niveau de la connaissance est quelque chose d'absolument fondamental pour comprendre le génie d'Aristote. C'est peut-être la distinction à laquelle il faut tout le temps revenir. Ceci face à Platon, qui lui ne regarde que le premier selon l'ordre de nature. Le premier selon l'ordre de nature, c'est la forme en soi. Les formes en soi sont connues en premier lieu, elles sont connues par le point de vue de la réminiscence. Et elles sont premières, elles déterminent l'intelligence. Aristote, lui, face à Platon, fait une distinction très importante parce que le nous est lié à l'expérience. Si le nous est lié à l'expérience, le premier génétique n'est pas le premier selon l'ordre de nature. Au fond, c'est Aristote qui réhabilite ici le devenir du nous, le devenir de l'intelligence. Il y a un devenir dans l'intelligence. S'il y a un devenir dans l'intelligence, dans l'ordre du devenir, la puissance est avant l'acte. N'oublions pas ça. Dans l'ordre du devenir, la puissance est avant l'acte. Dans l'ordre de la nature, l'acte est avant la puissance. Ça, c'est la grande vision d'Aristote qu'on retrouve tout le temps du reste des aspects multiples et divers. Il faut le saisir, Il faut saisir ce point de vue-là. C'est là la différence avec, avec tout point de vue de la dialectique hegelienne. On retrouvera exactement la même chose. Vous avez Platon ici, et vous pourriez mettre la dialectique hegelienne. Au fond, on aurait tout là. Et puis Aristote entre eux deux. Il est bien encadré. De Platon à Hegel en passant par Aristote, C'est-à-dire en faisant les confusions. Alors, c'est intéressant parce que pour Hegel, il n'y a pas cette distinction-là, il n'y aurait pas de dialectique. Le propre de la dialectique, c'est de considérer que le devenir de l'intelligence est le devenir de l'être, et il n'y a pas de distinction entre le devenir et l'être. Puisque l'être et le devenir ne font qu'un. C'est dans le devenir et à travers le devenir que je saisis l'être. C'est la réponse de Heidegger à Platon. Heidegger en dernier lieu, qui reprend lui la distinction platonicienne du premier de l'étant. Être et étant. Ça, c'est très en opposition avec Hegel. Ça, c'est évident. C'est très. L'opposition, ou la position de Nietzsche, si vous voulez, qui rejette l'être et regarde que le devenir. C'est intéressant parce que c'est une distinction qu'on retrouve à travers toute la philosophie, ces choses-là. Donc, au point de vue critique, c'est capital de comprendre cela. C'est très important au point de vue critique, de comprendre l'alliance de l'intelligence et des sensations qui réhabilite le devenir, mais parce que justement l'intelligence est conditionnée par nos sens, mais n'est pas déterminée par nos sens, l'intelligence est capable, nous, c'est capable de saisir, au-delà de l'expérience, le point de vue des principes. Des principes propres. Et en saisissant les principes propres, elle est au niveau de l'être, s'il s'agit de la métaphysique. Tandis que l'être est au niveau du devenir. Toujours la fameuse distinction, l'être et le devenir, le devenir et l'être. Bon, une fois que vous saisissez ce point de vue-là, vous comprenez que l'un est premier dans l'ordre génétique, et l'un est uni dans l'ordre de la propriété. L'un saisit au niveau génétique, c'est la disposition. C'est l'un saisi comme une disposition. Mais c'est l'un que j'expérimente. C'est C'est pour ça que je suis parti exprès de ces trois expériences que nous avons de l'un. L'expérience au point de vue artistique, la première chose que vous signifiez dans une œuvre d'art, si vous avez un tout petit peu un sens critique, c'est l'unité. C'est la première chose que vous saisissez. La première chose que vous saisissez dans un vivant, c'est son unité. C'est pour ça que vous, par unité, vous êtes l'âme. La première chose que vous saisissez, au point de vue, si vous voulez, ce que je vous disais, au point de vue de l'amour, c'est l'unité aussi. Donc vous avez ces trois grandes expériences sur lesquelles il faut tout le temps revenir, bon, qui montrent combien l'un est proche de notre intelligence liée au sens. C'est l'un qui exprime la première victoire de la forme sur la matière. Je crois qu'on peut dire ça. C'est l'un qui exprime la première victoire. C'est là, de l'ordre de la disposition ex parte matérielle. Elle se prend du côté de la matière. Et donc c'est l'un qui exprime la première victoire de la forme sur la matière. C'est cette première victoire. Je suis là dans l'ordre de la disposition. Ayant saisi les principes propres, je peux ensuite, après, saisir que cette disposition est propriété. Cette fameuse phrase d'Aristote qui est très intéressante, parce que je crois qu'elle assume ce qu'il y a de vrai dans la dialectique et en même temps elle n'entre pas dans la dialectique, ce qui au point de départ est de l'ordre de la disposition, quand la forme substantielle arrive, devient propriété. Ça fait comprendre toute la genèse de notre pensée. Ce qui est premier saisi de l'ordre de la situation est saisi de façon ultime comme propriété après l'avoir saisi le principe propre. Donc, la disposition, elle est saisie du côté du devenir. Et là, la propriété est saisie du côté de l'être. Alors, vous avez là deux conceptions tout à fait différentes de l'un. L'un saisi du côté de la disposition, l'un saisi du côté de la propriété. Et quand l'un est saisi du côté de la propriété, vous saisissez alors là pleinement la victoire de la forme sur la matière. Ça correspond à la difficulté. Bon, alors je vais continuer un tout petit peu ce que j'avais fait la dernière fois. Vous vous souvenez, c'est important pour nous de bien saisir. Normalement, nous n'avons plus que deux cours, je crois, aujourd'hui à la prochaine. Vous voyez bien qu'on laissera le point de vue de la personne humaine pour l'année prochaine. On vient de décider ça. Alors, on fera le cours sur la personne ici, à Rimoux. Puis, ceux qui sont là, qui iront là-bas, on reprendra la métaphysique, comme il faut tout le temps la reprendre, mais on gardera ici pour ceux qui sont très avancés, disons, ceux qui seront donc en théologie, et on maintiendra en théologie un cours de philosophie, c'est absolument nécessaire. Et on fera le problème de la personne, parce que c'est quand même très important. En faisant le problème de la personne, le problème des idéologies athées, en essayant de comprendre ce problème de la personne humaine. Donc, ne vous inquiétez pas, nous ne le voyons pas. Hein, on ne va pas faire un cours sur la personne. Il vaut mieux le voir longuement, parce qu'il y a quand même un problème très important sur le problème de la théologique, au point de vue psychologique et au point de vue philosophique. Hein. On est là, frontière, et toutes les confusions sont autour de la personne. Alors c'est important de bien le saisir. Donc ici, je reste dans l'analyse philosophique, scientifique de ce que représente, je ne suis pas encore dans le pose, hein, que Corinthe a saisi de la propriété. Et je vous ai dit, et je le redis parce que c'est important, c'est pas commun de comprendre ce que c'est que la science aristotélicienne. C'est beaucoup plus facile de comprendre ce que c'est que la science moderne. D'abord, nous sommes dedans. Alors quand même si on n'a pas beaucoup d'esprit scientifique, on est quand même dedans. Alors on sait à peu près ce que c'est que la science moderne. La science moderne, elle est née après. Donc, elle est fille bâtarde de ce que représente la science aristotélicienne. Le mot science, hein, je dis ça, c'est de la logique que je fais ici, ou de la critique. C'est intéressant de voir que le mot science épistémée, quand on vous interroge sur la science épistémée, tout de suite faites les distinctions. Autrement, vous tombez dans une équivocité absolue. Donc, distinguez le premier moment de la découverte de la science jusqu'au Platon, et la science chez Platon égale dialectique. Épistémé égale dialectique platonicienne. Il ne faut pas l'oublier. La science a d'abord été dialectique chez Platon. Aristote distingue dialectique et épistémé. Il distingue dialectique et épistémé parce que pour Aristote, la dialectique, c'est le raisonnement à partir des opinions. Alors on est en dialectique. Quand on raisonne sur les opinions, on est en dialectique. Vous voyez, quand saint Thomas, dans la Somme, les objections, il raisonne sur les opinions diverses, on est en dialectique. La question, la manière de la question et la disputation au Moyen-Âge, c'est de la dialectique. C'est pas la science. Le corps de l'article donne la science. Alors c'est ça qui est intéressant. C'est intéressant de voir que la dialectique, je crois qu'on peut le dire, la dialectique aristotélicienne enveloppe la science aristotélicienne. Vous voyez ? C'est toujours le noyau central de la science, c'est pas commode du tout à saisir. C'est même très difficile à saisir. C'est ce noyau central. Et elle est toujours enveloppée de la dialectique. Il ne faut pas croire que nous n'avons plus besoin de la dialectique. On en a tout le temps besoin de la dialectique, au sens aristotélicien. On en a tout le temps besoin. Pourquoi ? Parce que la science aristotélicienne égale philosophie. Et la science parfaite égale la science parfaite, égale la philosophie première. Qu'est-ce qui saisit la philosophie première aujourd'hui, hein? Plus beaucoup, ça. Est-ce qu'on appelle philosophie première métaphysique, comme j'aime bien philosophie première, parce que la métaphysique, c'est un truc court. Alors, il faut mettre philosophie première. Eh bien, c'est dans la philosophie première que vous lisez ce qu'est la science parfaite. Et les analytiques d'Aristote, les premiers et seconds analytiques d'Aristote, eh bien, nous donnent le statut logique de la science parfaite, et donc de la philosophie première, et non pas des mathématiques, comme on a beaucoup trop dit, à partir de Hamelin, on a répété ça. Non, les analytiques premières et secondes d'Aristote nous donnent ce que représente la philosophie première. Eh bien, dans les analytiques, Aristote montre que la découverte des propriétés. C'est bien les catotos. Les catotos d'Aristote. Les quatre percées. Les liens de nécessité. C'est les liens de nécessité que la science cherche. Parce que notre intelligence n'est satisfaite que quand elle est dans une ligne de nécessité. Tant qu'elle n'a pas atteint le nécessaire, notre intelligence flotte. Et elle ne sait pas très bien où elle est. Alors elle cherche le nécessaire. Le nécessaire est exprimé dans nos propositions. Et donc il faut saisir les quatre percées d'Aristote. Il faut le savoir. Hein. Ça fait partie des examens. Enfin, ça ne fait pas partie de l'examen que vous pouvez passer, mais ça fait partie de l'examen. Il faut savoir ce que c'est que la science aristotélicienne. Eh bien, la philosophie première, pour Aristote, est science. Elle est toujours enveloppée de la dialectique. Toujours. On a toujours besoin de topiques. Les topiques montrent la diversité des opinions. Et c'est toujours important de savoir la diversité des opinions pour bien comprendre qu'on n'est pas seul à penser. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui pense autrement que nous. Et c'est quelqu'un d'autre qui pense autrement que nous, il est très important. On portait Thérèse S.C. Donc c'est nécessaire qu'il y ait un imbécile qui est à côté de nous, qui fasse des hérésies philosophiques, n'est-ce pas, qui soit complètement à côté, parce que ça nous oblige de toujours rectifier. Comme nous avons besoin de tout le temps nous rectifier, nous avons tout le temps besoin d'un autre. Tout le temps. Ça nous aide beaucoup. C'est pour ça que la science aristotélicienne se développe toujours à l'intérieur d'une dialectique. Et on comprend que cette dialectique est nécessaire. Pourquoi ? Parce que là, c'est un signe propre qui constitue la science. Tant que je n'ai pas saisi les principes propres, je n'ai pas saisi ce que c'est qu'une science. La saisie des principes propres est toujours analogique. Qui dit analogique dit une saisie qui n'est pas parfaite. Et parce que la saisie n'est pas parfaite, on a toujours besoin d'induction. Et l'induction, elle me met en présence des diverses expériences et des diverses opinions des autres. Et alors c'est pour ça que j'ai toujours besoin de la dialectique pour que la science puisse se faire. Alors, c'est ici, vous voyez, je prends ça comme exemple, parce que c'est, nous devons réfléchir sur ce que c'est que la science aristotélicienne à propos du problème de l'indivisible. C'est le cas le plus éminent. Et c'est pour ça que c'est pas si commode que ça de saisir bien ce que c'est que l'indivisible. C'est pas si commode que ça. C'est facile de comprendre les opinions qui sont à côté, comme toujours. Mais saisir ce que représente vraiment le problème de l'indubitable, c'est pas commode du tout, parce que ça exige pour nous de bien comprendre le lien qui existe entre les principes et la propriété. La conclusion scientifique regarde les propriétés. Et donc la conclusion métaphysique, c'est de dire ce qui est en tant qu'être est. Ce qui est en tant qu'être est un. Il est un parce qu'il est substance. Parce qu'il est substance. Il est un parce qu'il est acte. C'est ça qu'on va voir, vous voyez. Je reprends le problème de la dernière fois, si vous vous souvenez bien, la dernière fois, je vous avais montré comment, je le reprends d'une autre manière pour que vous compreniez mieux. Toujours reprendre d'une autre manière pour que vous compreniez mieux. Mais ceci, tout simplement, de façon peut-être plus logique. La logique, c'est toujours une introduction. Hein. C'est toujours un organon, c'est un petit instrument, ça nous aide. C'est propre, la logique, c'est propre. Il n'y a pas de bavure, c'est très très propre. On a balayé, je veux dire. C'est pour ça qu'il faut bien saisir la propreté de la logique. Alors, je saisis donc les principes dans toute science. Type aristotélicienne, on était en dernier lieu, donc vous voyez, premièrement, la science égale dialectique Platon. La science distingue de la dialectique Aristote, et la science ne fait qu'un avec la philosophie. Et puis, troisième moment de la science moderne. La science moderne n'est pas la philosophie. C'est autre chose. La science moderne est autre chose. Elle nous donne des lois. Elle nous donne des liens de causalité qui ne sont pas vus dans le principe de causalité. C'est tout simplement le point de vue de la causalité tel qu'il se trouve réalisé d'une manière dans son conditionnement. La science moderne regarde le conditionnement et n'atteint pas les principes. Puisque les lois n'atteignent pas les principes. Les lois sont toujours relatives. C'est pour ça qu'une loi chasse une autre loi. Tandis que vous ne dites pas qu'un principe chasse autre principe. Et c'est ça qui fait comprendre, voyez, l'attitude des historiens, qui la plupart du temps ne comprennent pas la philosophie et la théologie. Alors ils disent, c'est relatif. Il y a une philosophie du Moyen-Âge, il y a une philosophie aristotélicienne, il y a une philosophie platonicienne. C'est relatif, la philosophie. Ça tient, donc il y a une philosophie moderne. Et si vous n'êtes pas dans la philosophie moderne, vous êtes un pauvre type. Parce que vous êtes en retard. Ils ont oublié que la philosophie n'est pas au niveau des lois, mais au niveau des principes propres. Les principes propres en philosophie première, ousia, vous commencez à le savoir, j'espère, hein, ousia, l'acte, énerveillant, l'être en acte. Voilà les deux principes. Les deux principes qui sont les deux principes de ce qui est. Donc, si je conclue, je peux dire ce qui est. Ce qui est, pensez toujours à l'homme, à Pierre. Ce qui est en tant qu'être, est un. Voilà la conclusion. Ce qui est en tant qu'être est un. Parce que, alors je donne tout de suite la conclusion, vous voyez, pour être une propriété, parce que ça je pourrais. Si c'est une conclusion, si je fais le lien entre ce qui est un, si je le fais en tant que conclusion et non pas en tant que description. L'expérience est au niveau de la description. Cette œuvre d'art existe, elle a son unité. est là son unité. Ce qui est un. Vous voyez, la description est toujours au niveau de l'avoir. Toujours. Est-ce que vous pesez votre avoir, hein? Alors, la description est toujours au niveau de l'avoir. Tout ce qui est au niveau de l'avoir, il y a un être. Description. Ceci est. Dès que je suis au niveau métaphysique, je suis au niveau de l'être, et l'être ne se décrit pas. Sauf quand on a la fièvre quarte. Alors, à ce moment-là, l'être se décrit. N'est-ce pas ? Autrement, l'être ne se décrit pas. Il se saisit intellectuellement. C'est Père Mandonnet qui disait, à partir de 40 degrés de fièvre, les crises paludisent, n'est-ce pas ? À partir de 40 degrés de fièvre, il y a un petit nuage qui danse, l'être. Vous voyez ? Mais ça, c'est imaginatif. C'est imaginatif. C'est la l'être ne se décrit pas. Il se saisit. Dans une super signification. Parce que la signification première, c'est les catégories. Alors, une super signification. Donc, il faut bien saisir ce que ça représente, cette saisie de l'être. Bon, alors, quand je dis ce qui est Pierre, vu du point de vue de l'être, est un. Là, je suis en face de la conclusion de la philosophie première. Toute la philosophie première est pouvoir dire ça. Eh bien non, c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir dire que ce qui est un, c'est-à-dire indivisible, en tant qu'il est. Et c'est là la propriété. Ce qui est un. Et en ce sens-là, je peux dire que l'être est, que l'un est accueilli de l'être. Il est ce qui est attribué. Attribué à ce qui est. Ce qui est en tant qu'être est un. Parce que, j'explique, c'est là le point de vue de l'explication, parce que ce qui est substance. À cause de sa substance, ce qui est un. Parce que il est acte. Et comme il est acte de cinq manières, je vais avoir donc cinq modalités de l'un. Et avec la substance, six. Je conclue, c'est ça, mon bonne logique. Hein. Alors je conclue. Donc, parce que l'acte est laissé, l'acte est bonté, bon, bien, parce qu'il est vrai, parce qu'il est opération vitale, tout ça c'est Pierre, hein, parce qu'il est mouvement, cinq modalités. Alors, est-ce que c'est vrai? Je conclue. Parce qu'il est essai, bien, vrai, opération vitale. Je conclue, 5, ça fait donc 6 modalités, 6 fois. Alors, est-ce qu'il y a, c'est assez amusant de se poser la question, est-ce qu'il y a 6 conclusions? 6 conclusions différentes. Très bien de vous laisser pendant un quart d'heure réfléchir là-dessus. Et mettre ça sur un petit bout de papier, hein, et savoir s'il y a 6 conclusions. J'ai une bonne logique, c'est ça. Parce que ben nous avons les modalités, puisque nous y a le principe, puisque l'acte est principe. Donc, parce que ce qui est en tant qu'être est un, parce qu'il a l'ousia, parce qu'il est ousia, parce qu'il est acte, parce qu'il est assez, parce qu'il est bien, parce qu'il est vrai, parce qu'il est opération vitale. Donc, six conclusions. Hein ? Je crois qu'au point de vue logique, vous suivez ça très bien. Maintenant, on va réfléchir pour essayer de comprendre un petit peu. Oui, par exemple, dans la logique, on ne réfléchit pas. C'est, on applique directement. Ça doit être comme ça. Alors, si vous ne réfléchissez pas, vous dites six conclusions. Alors, vous auriez donc six conclusions de la métaphysique. Alors, comme fait toujours Aristote, Aristote fait ça et puis il réduit ses six conclusions. Il y a une réduction de ces conclusions. C'est intéressant du reste de voir la réduction, parce qu'au fond, ça prouve que, faut bien préciser, ce qui est Pierre est un, parce qu'il est une substance. La propriété se rattache à la réalité dont il est propriété, à cause du principe que je saisis dans cette réalité. Pierre est substance, donc il est un. Pourquoi ? Parce que justement, Pierre existe, et en tant que je le saisis comme substance, il est un, ce qui est du point de vue de l'être, donc il est un. La substance est source d'unité dans l'être. La substance maintient l'unité dans l'être. Maintenant, nous l'avons saisi à partir de l'unité, et nous redécouvrons que la substance est découvrons non plus comme disposition, mais comme propriété. Bon, alors quand j'ai dit Pierre, ce qui est, peu importe, ça m'est égal, hein, Pierre, en tant qu'il est un parce que vous y êtes. Ça, faut tous comprendre ça. Quel est le caractère propre, alors ici je réfléchis au point de vue métaphysique, quel est le caractère propre de cette unité qui est directement commandé par l'ousia, qui provient de l'ousia? Quel est le caractère propre de cette unité? L'ousia, principe selon la forme de ce qui est. Donc, l'un provient là de la détermination. Tout ce qui est déterminé, et dans la mesure où il est déterminé, est un. C'est-à-dire échappe à la division. Puisque l'un, c'est ce qui échappe à la division. C'est ce qui est au-delà de la division. Ce qui n'est plus divisible. Nous l'avons vu, l'un, c'est proprement ce point de vue-là. Alors, comprenons ici comment cet un, parce qu'il provient d'un principe selon la forme de ce qui est, la substance, cette unité provient donc de la détermination, source de toutes les formes. Au-delà de la division, montre comment il y a dans Pierre, en tant qu'il existe, une unité. Voilà ce que je dois dire. Alors, est-ce que cette unité est la même que celle-ci? Ou est-ce que je saisis là deux types d'unités différentes? Dans le concret, c'est bien évident que c'est la même. C'est sûr, dans le concret, c'est la même. Mais faisons attention, on est en science. La science ne regarde pas le concret. Elle regarde le concret sous la raison formelle de la propriété. Ce n'est pas une description, une conclusion scientifique, hein. Une conclusion scientifique est une conclusion scientifique, c'est-à-dire qu'elle implique une formalisation. Autrement, ce n'est pas une conclusion scientifique. On saisit telle réalité sous la lumière du principe. Or, ici, la lumière du principe n'est pas le même, vous y allez, c'est. C'est bien d'accord. Concrètement, c'est la même réalité, puisque l'essai affecte vous y a, il a fait ce qui est, mais ce n'est pas quand même la même raison formelle. C'est deux raisons formelles différentes, ousia et essai. Puisque c'est une raison formelle au niveau du principe selon la forme de ce qui est, ou au contraire, une raison formelle au niveau de l'essai. Alors, je dois me poser la question, et ce n'est pas si commode que ça, et ça, c'est très intéressant, est-ce que, quand je dis, comprenons bien, quand je dis ce qui est, du point de vue de l'être, est un parce qu'il est substance. Ce qui est, du point de vue de l'être, est un parce qu'il est essai. Est-ce que c'est la même unité? Hein? Voilà. Vous voyez l'épaisseur de votre intelligence, hein? Si vous étiez intelligent, vous diriez tout de suite, immédiatement. On est tous pris par le point de vue concret. Pierre, il existe, il est un, c'est bien évident. Il est un. Oui, mais la conclusion scientifique, la conclusion de la philosophie première, il est un parce qu'il est ousia, il est un parce qu'il est essai. C'est la même unité, prise concrètement. C'est sûr, c'est la même unité prise concrètement. Est-ce que c'est la même unité formelle? Non. Ce n'est pas la même unité formelle. Alors, quelle différence y a-t-il entre les deux? Quelle différence y a-t-il entre les deux? C'est pas la même unité formelle, puisque l'une est commandée par l'ousier, l'autre est commandée par l'essai. Or, l'essai, c'est l'acte d'être. L'essai, c'est pas le principe, c'est l'acte d'être. L'essai. Or, l'acte d'être n'est pas l'ousien. Alors, vous avez donc une unité qui provient de l'acte d'être, qui est l'unité numérique de l'individu. L'individu, du fait même qu'il existe, et en tant qu'il existe, en tant qu'il a l'acte d'être, est un, numériquement. C'est la fameuse chose de l'unité numérique, que saint Thomas reprend tout le temps, que saint Thomas reprend Aristote. L'unité numérique. En tant que l'unité numérique. Mais qui n'est pas la même unité, la même unité que j'ai en tant que je suis substance. Mon unité de substance repose sur mon numérique, que saint Thomas reprend tout le temps, que saint Thomas reprend Aristote. L'unité numérique. J'existe, j'ai une unité numérique. Mais qui n'est pas la même unité, la même unité que j'ai en tant que je suis substance. Mon unité de substance repose sur mon autonomie. Tandis que l'autre, c'est une unité existentielle. C'est pas la même unité. C'est deux unités différentes. Ce serait intéressant à préciser que ces deux types d'unités qui sont différentes, qui ne sont pas les mêmes. L'une est beaucoup plus formelle, parce qu'elle provient de la substance, elle est beaucoup plus formelle. Elle implique que de fait, il y ait dans l'ordre des déterminations quelque chose qui empêche la division. Il y a quelque chose dans l'ordre formel, puisque l'ousia est principe. Principe selon la forme de ce qui est. Tandis qu'au contraire, l'unité qui provient de l'essai, c'est l'unité qui est plus fondamentale, qui est plus radicale et qui est beaucoup plus ultime, puisqu'elle rayonne sur toute la réalité. Cette réalité, du fait même qu'elle existe, elle est une. Elle est une par son essai. Et en raison de son essai. Donc elle est ultime. Et c'est ce qu'on veut dire quand on dit l'un numérique. C'est quelque chose d'ultime. Tandis que l'autre, en langage proprement logique, on dirait elle est spécifique. Voyez la fameuse distinction unité spécifique et l'unité numérique, qui est une distinction classique au point de vue logique. L'unité spécifique provient de la substance, parce qu'elle provient de la diaphore, elle provient de la différence. Elle provient de la différence spécifique, donc elle se ramène à la substance. Il y a une unité spécifique qui se ramène à la substance. Il y a une unité numérique qui se relève sur l'acte d'être. Donc nous avons bien là deux types d'unités qui sont reconnues de façon très classique. On les répète tout le temps, mais on ne sait pas très bien ce qu'on veut dire. Ah, maintenant vous devez savoir ce que vous voulez dire. Quand vous direz l'unité spécifique, vous direz, ah oui, c'est l'unité qui provient de l'ousia, et c'est l'unité donc qui provient de la substance en tant qu'elle est racine selon la forme, principe selon la forme de ce qui est. Et l'unité numérique, ah, elle provient de l'essai. Oui, elle provient de l'essai. C'est que cette réalité qui existe ramène toute la multiplicité de ces parties à l'unité, dans l'ordre existentiel. Donc, unité numérique, unité spécifique. L'une s'enracine dans la substance, l'autre s'enracine dans l'essai. Là, j'en ai le fondement métaphysique. Et je vois bien qu'il y a deux conclusions scientifiques. Scientifiques au niveau science, mais philosophie première. Bon, c'est déjà quelque chose. Troisièmement, je me demandais, est-ce qu'il y a une nouvelle unité qui provient du bien? Ce qui est Pierre en tant qu'il est un parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon. Donc il y a une nouvelle unité qui provient de la bonté. Il y a une nouvelle unité qui provient de la bonté. Possède une nouvelle unité. réalité en fonction de sa volonté. C'est pas curieux, ça. Et cette unité qui provient de sa volonté n'est pas du tout... Je ne suis pas au niveau éthique, hein. Je suis au niveau métaphysique, n'oubliez pas. Ça fonde l'éthique. Mais c'est pas au niveau éthique, c'est au niveau métaphysique. Nous avons un nouveau type d'unité qui provient de notre bonté. Pourquoi ? Parce que la bonté exprime l'acte ultime de la réalité. C'est l'acte ultime puisque c'est le point de vue de la fin. Dans la mesure où je suis bon, je peux finaliser. Dans la mesure où je suis bon. Donc, dans la mesure où je suis bon, j'atteins quelque chose d'ultime. Je suis bon dans la mesure, dans la mesure où je suis finalisé, je suis bon. Dans la mesure où vous êtes finalisé. Quand vous êtes en dessous du niveau de la mer, parce que vous êtes fatigué, votre finalité, elle est suspendue, vous êtes beaucoup moins bon. C'est à ce moment-là que le vieil homme renaît et que vous êtes de mauvaise humeur. Et ça se traduit tout de suite comme ça. Votre potentialité se traduit dans votre mauvaise humeur. Alors dites-vous bien ça, quand vous êtes de mauvaise humeur, je ne suis pas finalisé. Alors vous raccrochez et puis vous retrouvez votre finalité et à ce moment-là vous retrouvez bon et vous vous retrouvez un. Il y a une unité. Cette unité qui provient de la bonté est autre que celle de l'essai. Celle de l'essai est fondamentale, elle est ultime dans l'ordre de l'individu, mais c'est quand même pas la même chose. Autre chose est l'individu, autre chose est l'individu raccroché à sa fin, finalisé. Donc bon. Un être bon est un être unifié. Et c'est vrai. La santé. Oui, nous rejoignons l'expérience. La santé, c'est la bonté dans l'ordre biologique. Un être bon dans la mesure d'une bonne santé. De la santé, une bonne santé. Et alors, il est bon par sa santé. Et il est un, il est unifié. Tandis que si vous apercevez des petites crevasses, vous dites, tiens, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le problème du multiple. Nous le verrons la fois prochaine, le problème du multiple. Ici, je dis qu'il y a un type d'unité, troisième unité, celle qui provient de la bonté. C'est curieux ça. Hein? Et au fond, on ne pense pas assez que ces divers types d'unités ne sont pas les mêmes. L'unité du bien, l'unité de l'essai et l'unité de l'usia, voilà trois types d'unités. La vérité. Il est un en tant qu'il est vrai. Aujourd'hui, on dirait en tant qu'il est authentique. Hein? En tant qu'il est authentique. Je peux le secouer, il n'y a rien qui tombe. C'est authentique. N'est-ce pas, Tommy? Quand je le secoue et que toutes les vieilles brunes dégringolent, alors c'est pas authentique. Oui, les cheveux, n'est-ce pas, qui sont ajoutés et collés par-dessus, alors vous voyez, on voit très bien, c'est pas authentique. N'est-ce pas, tandis qu'au contraire, ça fait partie de l'authenticité, c'est quelque chose qui fait partie de l'être. Il y a une unité d'authenticité qui provient du vrai. Il n'y a rien de superflu. Rien de superflu. C'est l'unité dans l'ordre de l'intelligibilité d'un être. C'est très curieux l'unité qui provient du vrai. Ce qui permet à la réalité de mesurer, d'être mesure. Elle possède justement quelque chose. L'unité dans le bien permet de finaliser et l'unité dans le vrai permet d'être mesure. L'unité, ça fonde l'unité de la mesure. L'unité de la mesure provient de cette unité de vrai. La question des opérations vitales. Les opérations vitales sont un autre mode. Alors vous voyez, de nouveau nous retrouvons ça. Les opérations vitales et le mouvement ne sont pas source d'unité. Je ne peux pas dire Pierre est un du point de vue de l'être à cause de ces opérations. Pourquoi dire ça? Pourquoi? Je crois que ça tout de suite vous sentez. Pas la peine de discuter beaucoup. Pierre est un, du point de vue de l'être, à cause de ses opérations vitales. Non, puisque ses opérations vitales sont multiples. Toute la complexité de son être provient de ses opérations vitales. Donc on va dire qu'il est un à cause de ses opérations vitales. Alors pourquoi? Parce que l'unité des opérations vitales n'est pas au niveau de l'être. C'est l'acte, je veux dire. L'acte des opérations vitales n'est pas au niveau de l'être, c'est au niveau de la vie. Or, au niveau de la vie, j'ai au contraire, à cause du corps, et à cause de la complexité du corps, j'ai la complexité des opérations vitales. Et donc, si à la complexité des opérations vitales, les opérations vitales ne sont pas source d'unité. Je suis au conditionnement de l'être. Et donc, je suis au contraire dans la multiplicité de l'être. Je pourrais dire, Pierre est multiple à cause de ses opérations vitales. Ah, tout à fait d'accord. Parce qu'il doit manger, parce qu'il doit dormir, parce qu'il doit... ainsi de suite. Alors, vous voyez, à cause de la complexité de ses opérations vitales, il y a en lui une possibilité d'orientation multiple. À cause de ça, quelquefois, il perd son unité. À cause de ça, parce qu'il retombe au niveau de la vie, et retombant au niveau de la vie, il tombe dans l'anarchie. Cause à la multiplicité. C'est la finalité. C'est parce que j'ai une fin au niveau de l'esprit, c'est parce que j'ai une vérité au niveau de l'esprit que je vis. Il n'y a pas d'unité au niveau de la vie. Impossible. Il y a la complexité. Donc, pas de problème d'unité. Alors, voyez, la même chose au niveau du mouvement. Le mouvement est l'acte du corps, le corps est principe de multiplicité, donc pas d'unité. Vous avez donc... au niveau métaphysique, quatre types, quatre modalités d'unité. Oui.
La grâce d'une danseuse, par exemple,
non, alors faisons attention, c'est le dernier problème que nous allons traiter. Déjà la dernière fois, vous vous souvenez, je vous avais dit l'œuvre d'art, nous n'en avions pas parlé. Vous voyez? Et alors, c'est l'œuvre d'art. Vous voyez? Et alors ici, je cherche, hein, faisons bien, je suis parti de ça, je suis parti de la question, la conclusion scientifique. La conclusion scientifique de la philosophie première. Quelles sont les diverses conclusions que je peux donner directement en philosophie première? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème demeure. Nous étions partis de cette expérience de l'œuvre d'art. Vous voyez, je n'ai pas pris la danseuse, mais vous pouvez prendre la danseuse. Donc, nous étions partis de l'œuvre d'art. Et l'œuvre d'art implique l'unité. Bon, nous avions vu la dernière fois, si vous vous souvenez bien, que les deux expériences de la santé et le point de vue de l'amour, nous l'avions découvert directement. Mais l'œuvre d'art restait. De nouveau ici. Alors, je veux d'abord conclure au point de vue philosophie première. Quatre conclusions scientifiques. Donc, quatre modalités de l'un. Il y a quatre modalités de l'un comme propriété de l'être. Très curieux. J'essaie de comprendre une modalité au niveau de l'autonomie, une modalité au niveau de l'essai. Donc de l'acte d'être individuel, l'unité numérique, une modalité au niveau du bien, donc de la plénitude et de la perfection d'un être qui atteint sa fin, et une modalité au niveau de l'intelligibilité, au niveau du vrai, fondant l'intelligibilité au niveau de la mesure. Il y a quatre modalités, il n'y en a pas d'autres. Cherchez bien. N'en trouverai pas d'autre. Au niveau métaphysique, reste le problème que nous n'avons pas vu, le problème de l'unité de l'œuvre d'art, qui n'est pas donnée ici directement. Et là, vous comprenez. que cette unité de l'œuvre d'art n'est pas déductible immédiatement à la métaphysique. Nous l'avions déjà vu, nous n'avions pas comme modalité de l'acte le beau. Alors nous reviendrons là-dessus.